C'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor, c'est du lundi au vendredi avec aujourd'hui un nouvel épisode de nos émissions sur le parc d'Armorique et on ira plutôt du côté de la mer.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans le magazine, l'émission LEM, tout simplement LEM qui aime vous promener dans le Finistère. Aujourd'hui, on va défier la pluie, on va profiter d'un espace tout proche, maritime essentiellement, littoral plus généralement, la rade de Brest, tout simplement. Le petit guide marin de la rade de Brest, vous l'avez peut-être déjà eu entre les mains. C'est un petit livre qui tient dans la poche, qui est à la fois instructif et pratique. L'édition 2026 est parue et nous donne un prétexte pour faire cette émission et redire combien la rade est un milieu riche en biodiversité, mais fragile. Avec nous pour en discuter, il y a Anna Capietto, qui est chargée de mission biodiversité au parc d'Armorique et qui a notamment travaillé sur le programme Life Mara, dont on parlera, qui concerne la rade de Brest. Yves-Marie Paulet, vous le connaissez, il est biologiste, écologue des systèmes marins, professeur émérite à l'Université de Bretagne occidentale, ancien directeur de l'IEM et surtout il est membre du conseil scientifique du parc d'Armorique. Et puis il y a Laure Jardy qui est chargée de la communication du PNRA. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Véronique.
Bonjour.
On va commencer par le héros, c'est ça, le petit guide marin de la rade de Brest. Laure, ça existe depuis quand déjà le petit guide?
Je me tourne déjà vers Anna pour cette question
piège qui me vient subitement.
Alors le petit guide marin, il a été créé en 2019 dans le cadre du projet Life Mara dont on reparlera sûrement par la suite. Et donc voilà, c'est
7e édition.
Oui,
tout à fait.
Et un outil désormais plébiscité qui est attendu. On est très fiers de proposer cette nouvelle version et les lecteurs y trouveront donc au fil des mois les horaires de marée, bien sûr, une mine d'informations sur la biodiversité de la rade. Et puis, nos conseils pratiques pour nous aider à la préserver.
Oui, parce que c'est certes un outil pratique, mais c'est aussi un outil de sensibilisation. Hein. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Alors, vous changez les chapitres chaque année, enfin, qu'est-ce que vous privilégiez comme sujet?
On change en effet déjà les photos. Il y a de très belles photos dans ce petit guide qui permettent aussi aux lecteurs de plonger sous l'eau. On change les photos chaque année et puis les thématiques en fonction de nos actions, des actualités du parc et de ce qu'on peut mener sur la rade.
Soit c'est des milieux qui sont mis en avant, comme les champs de blocs, les herbiers austères, soit c'est des animaux plutôt, c'est ça? Il y a des végétaux peut-être, non?
Alors, il y a notamment des algues rouges calcaires dont on parlera par la suite, le merle qui est mis en avant. Il y a des végétaux, les présalés, qui peuvent être mis en avant, qui se trouvent juste...
Qu'est-ce que c'est un présalé, ouais?
Alors, les présalés, c'est les zones qui se trouvent en haut des vasières, qui sont des plantes qui sont habituées à un milieu salé, salin, avec le courant, l'air marin qui arrive sur ces plantes. Et donc, c'est des plantes que l'on trouve souvent en haut de plage et qui construisent un peu les débuts de dunes que l'on peut observer.
Ah oui, ceux du Mont-Saint-Michel sont très connus, mais il y en a aussi dans la rade de Brest.
Il y en a dans la rade de Brest. En haut des vasières, on a des zones de présalés qui sont originellement avec des plantes originelles des présalés, l'aubione, la salicorne, qui sont des plantes et qui, depuis les années 50, ont été colonisées par une plante invasive, la spartine américaine, qui est très présente en rade de Brest. Donc on a mené de nombreuses actions pour essayer de lutter contre la propagation de cette plante en rade de Brest. Donc on voit hein, ces grandes zones très vertes qui sont présentes sur le bord de mer.
On va y revenir sans doute. Donc pour terminer sur le petit guide marin de la rade de Brest, Laure, il y a aussi des conseils très pratiques de pêche à pied, c'est ça?
Oui, voilà. C'est un peu notre petit guide. C'est un peu le guide des castors juniors version rade de Brest. Hein. Tout le monde peut y trouver des informations.
Les plaisanciers,
les marcheurs, les pêcheurs aussi. Voilà, un petit guide très utile à avoir en poche qu'on peut retrouver en mairie, dans les offices de tourisme, les capitaineries de la rade et puis en ligne sur notre site internet.
Sur Calaméo Très bien. Et ça y est, il est sorti, il est disponible. On a déjà commencé avec Anna Capieto à aborder la richesse de la Rade de Brest. On va continuer avec Yves-Marie sur en quoi ce milieu est très spécifique quand même. Enfin, la Rade de Brest, elle est unique.
Oui, la Rade, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est un mélange de la terre et de la mer, mais c'est la mer qui rentre dans les terres, en fait. Ça n'est pas un estuaire, comme on imaginerait, une arrivée de rivière. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'au centre de la Rade de Brest, bien enfermé dans cette enclave, on a toutes les espèces marines, finalement, de l'Atlantique. On y trouve les coquilles Saint-Jacques, on y trouve évidemment les pétoncles, etc. Et des centaines et des milliers d'espèces qui sont des espèces marines. Et si on remonte un petit peu plus vers les rivières, vers les ruisseaux, là, on commence à trouver des zones de mélange avec toutes les espèces de l'estuaire, hein, extrêmement riches, et notamment tous les oiseaux qui vont profiter de cette richesse. Mais c'est important de dire que c'est une enclave de la mer dans les terres. Et donc, ça nous fait une forme de patchwork absolument extraordinaire de milieux, de micro-milieux, d'habitats, etc. Avec une particularité, ce sont des courants assez forts, puisque le tiers de la rade ressort à chaque marée descendante et re-rentre à la marée suivante. Donc on a quelque chose de très très original. Il n'y a pas d'autres écosystèmes de ce type-là en Europe. C'est vraiment quelque chose d'unique et c'est une très haute biodiversité. Et parmi ces habitats, on trouve des habitats vraiment d'eau marine claire, je dirais. Ce ne sont pas des eaux boueuses de l'estuaire. Le merle, par exemple.
Oui.
On parle dans ce guide, bien sûr.
Redisons ce qu'est le merle, si Anna l'a un petit peu.
Le merle, c'est étonnant. Ça ressemble à un petit arbuscule dur. On l'appelle parfois le corail, mais ça n'est pas du corail. C'est un végétal, d'accord, qui fixe du carbonate de calcium, qui forme des petits arbuscules, qui tapissent le fond de la Rade de Brest pour une large surface de la Rade de Brest. On a de très belles photos, d'ailleurs, dans le guide. Hein.
Et avec des belles couleurs. Les vraies couleurs.
C'est extrêmement lumineux. Quand c'est vivant, c'est bien rouge. Quand ça meurt, ça devient blanc. Et ça, on le connaît plutôt blanc parce qu'on le trouve parfois dans les allées, dans les jardins, etc. Mais vivant, il est rouge vif et il héberge une biodiversité extraordinaire puisque sa forme, petit arbuscule étalé sur le fond, crée un milieu en trois dimensions où la vie vraiment se développe.
Plein de petites niches, quoi.
Plein de petites niches, des larves de poissons, des larves de coquillages, des coquillages, des éponges, etc., etc. Et ça, c'est tout à fait unique. Et justement, enfin, on parlait du Life Mara. Life Mara, c'est beaucoup penché là-dessus. Il va continuer à se pencher sous une forme un peu différente sur ces milieux extraordinaires.
Parce que ce merle, il a été exploité. Enfin, maintenant,
il a été fortement exploité. Ouais. C'était un amendement pour les champs. Il a permis d'ailleurs à la Bretagne de faire un sol fertile. Il a contribué parmi d'autres choses, parmi le goémon, etc., à former du sol. Mais on l'a maintenant arrêté parce que son taux de renouvellement est faible. Et donc, c'est une ressource finalement qui n'est pas réellement renouvelable, comme on pourrait le croire. C'est une source qu'on a épuisée par endroits et qui maintenant se reconstruit.
Anna Capieto, un autre exemple de milieu de la Rade que vous aimez bien.
J'aime bien. Tous les milieux sous-marins sont assez étonnants en Rade de Brest. Ce que l'on peut voir quand on se balade sur le littoral, c'est, j'en parlais juste avant, les vasières intertidales sur ces zones de balancement des marées qui se découvrent quand la marée descend et qui sont des zones où on peut observer notamment énormément d'oiseaux qui viennent s'alimenter en hiver. On a aussi les champs de blocs, c'est des zones de blocs mobiles qui découvrent aussi à marée basse.
Alors c'est des gros cailloux, un bloc rapport à un rocher par exemple?
Ça dépend de où on se trouve en France, parce que les blocs vont avoir des tailles assez variées. Nous, on a plutôt des petits blocs qui font une taille A5, A4 d'une feuille. On a des blocs donc, qui se mettent les uns sur les autres et qui vont former des petites cachettes en dessous des blocs, des zones aussi où ça garde l'humidité, où il y a de l'eau, il y a des petites cuvettes d'eau qui vont se retrouver en dessous. Et donc, il y a plein d'animaux qui se cachent sous les blocs. Sur les blocs aussi, il y en a qui vont venir se nourrir des algues qui sont présentes sur ces blocs. Et puis, il y a plein d'oiseaux aussi qui vont venir manger sur ces zones-là. Et c'est un lieu qui est très recherché par les pêcheurs à pied, puisque sous ces blocs, on va avoir des ormeaux, pas beaucoup en Rade de Brest, mais on en a quand même quelques-uns, des pétoncles aussi qui se retrouvent sous ces blocs, des étrilles qui vont aller se cacher en dessous. Donc on a plein d'animaux qui se trouvent dans ces zones-là. Donc un bon réflexe.
On verra, verra tout à l'heure comment bien pêcher à pied. On ne fera pas des cairns avec les cailloux des champs de blocs, par exemple. Yves-Marie, un autre milieu, je ne sais pas, les austères peut-être, les champs austères
C'est très intéressant parce que c'est un cas très particulier de plantes terrestres, des plantes à fleurs terrestres qui se sont adaptées au cours du temps à vivre sous la mer.
Pas tout le temps alors. Si,
pas tout le temps. Elles sont émergées aux grandes marées, mais elles sont presque tout le temps sous l'eau, hein, sous l'eau de mer. Et un peu comme le mer, elles ont besoin de lumière, donc il faut des eaux assez claires, puisqu'elles font de la photosynthèse. Et donc, dans une
mais ce n'est pas des algues.
Ce ne sont pas des algues. C'est ça. Et donc, il leur faut une lumière, et ça crée des véritables prairies qui sont très riches. Alors, très riches en ce qu'on appelle des épibiontes, des tas d'espèces qui vont se fixer sur ces feuilles. Ce sont comme des feuilles d'herbe. Hein.
Et c'est pas de la symbiose, enfin ce qu'on appelle de la symbiose, non ?
C'est de la vie avec, c'est de l'écologie simplement, c'est de l'interaction.
Okay.
Et elles sont couvertes de choses microscopiques comme les diatomées qui vivent à la surface de ces feuilles et de tas d'espèces brouteuses qui vont profiter de ces diatomées. Mais on a aussi dans ces herbiers des lieux de protection où le courant est ralenti, où la vie est plus facile, des espèces de poissons. Relativement rare, on peut trouver des hippocampes hein, dans ces milieux. Et on a aussi, avec ces milieux de zostères, quelque chose de très particulier, c'est que ce n'est pas une algue, et ça vit plutôt comme une plante, c'est-à-dire qu'il y a une forme de racine. Dans le sédiment, on a non pas une racine, mais un rhizome. Elle stocke de l'énergie dans des sortes de tubercules, ce qu'on appelle des rhizomes, qui sont dans le sable. Et ce qui est très important, et là on touche à l'écologie générale, c'est que c'est un des rares milieux marins qui stocke du carbone dans ses racines prises dans le sédiment. Donc protéger aujourd'hui les herbiers, c'est protéger la biodiversité, tout ce que j'ai pu citer auparavant, mais c'est aussi œuvrer pour le climat et pour le stockage, pour la séquestration du carbone qui nous embête tant dans l'atmosphère.
Et ces milieux, ils sont particulièrement grands en rade de Brest ou, est-ce qu'ils ont des particularités liées à la rade ?
Ils sont étendus en rade. Ils sont même historiquement importants puisque les pêcheurs Kéror du relais Kéruon utilisaient énormément ces milieux pour leur pêche. Hein. C'est un milieu de pêche très important. Ils sont étendus, mais ce qu'on doit dire des austères, c'est qu'au-delà des impacts humains, parce qu'on va les citer, mais on peut abîmer facilement ces austères, il y a aussi des grandes fluctuations interdécennales ou interannuelles de la taille de ces champs d'herbiers. Et on a un certain nombre de pathologies connues qui font que parfois, il y a eu des grandes régressions. Si on regarde en Bretagne, dans les années 60 du siècle précédent, on a eu des disparitions quasi complètes des champs d'herbiers. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase proliférante, je dirais. Les herbiers vont plutôt bien, mais attention, ils méritent d'être protégés parce que leur résilience, leur résistance à tout ce qui est en train de se passer, et notamment le changement climatique, dépendra de leur état écologique, de leur bon état écologique.
Et pour avoir une petite idée de l'ordre de distribution, dans le petit guide marin, vous avez une carte qui reprend la distribution de ces principaux habitats dont on a parlé.
Donc on a parlé des habitats, et puis il y a les espèces. Alors les espèces plutôt animales, là, pour le coup, celles qui sont dans le petit guide, mais pas seulement. Enfin, quelles sont les espèces les plus emblématiques de la rade Alors qui ? Yves-Marie ?
Oh ben, je crois que... Bon... Si on regarde aujourd'hui, on pense à la rade de Brest, on pense à la coquille Saint-Jacques. Mmh. C'est vrai que c'est un emblème, c'est un symbole de la rade. C'est pas rien, c'est quelque chose, une coquille Saint-Jacques, pour plein de raisons, hein, comme animal, mais aussi dans une assiette, c'est intéressant. Enfin, bref, on a les cousins proches de la coquille Saint-Jacques, il y a deux grandes catégories, enfin, deux espèces, ce sont les pétoncles. Le pétoncle noir, le pétoncle blanc, c'est les mêmes familles, hein, c'est ce qu'on appelle les pectinidés, c'est la même famille d'espèces marines. Donc là, on a des choses très, très symboliques de la rade, avec certaines qui sont en difficulté. Hein. Le pétoncle blanc a très fortement régressé de la rade de Brest, le pétoncle noir ne va pas très bien, la coquille Saint-Jacques elle-même, ça va pas très bien parce qu'elle souffre de plancton toxique, parce que la rade a aussi des gros déséquilibres aujourd'hui.
On peut réécouter la série de Lucas Bosbeuf hein, qu'on a diffusée hein, sur cette antenne pour savoir ce qui est arrivé au coquillage de la rade.
Mais si on pense aux espèces de la rade, donc il y a multiples espèces de poissons, etc., je vais pas faire toute une liste, mais on a une très très grande biodiversité. Mais on a, et ça je pense qu'on va en dire un mot, on a quelque chose qui aujourd'hui est à l'état presque de relique, mais qui a eu un passé extraordinaire, c'est l'huître plate.
Et on en parlera tout à l'heure parce que vous essayez de la réintroduire.
Il faut bien avoir en tête que la rade de Brest a été pendant tout le 19e siècle un site extraordinaire au niveau national et international pour l'huître plate. Et aujourd'hui, l'huître plate, pour plein de raisons, elle a régressé, on pourra en parler pour des raisons de pêche, des raisons de maladie, etc. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un effort considérable des pêcheurs, des scientifiques, du parc régional, etc. pour tenter de réimplanter des bancs d'huîtres plates en rade de Brest.
Et puis il y a des oiseaux, alors on va en écouter un, par exemple. Alors là, c'est la grèbe à cou noir. que j'ai emprunté. Alors, je l'ai emprunté, il faut quand même que je le dise, au site chant-oiseau.fr, avec beaucoup d'oiseaux écoutés. Elle est présente en Rade de Brest?
Alors, oui. Le grabat counoir, il est très présent en Rade de Brest, en hiver. C'est un oiseau qui passe en hiver. Et on a d'autres oiseaux.
C'est un oiseau, comment on dit, limicole, qui picore dans la vase, non?
C'est grèbe, plongeon, c'est plutôt des oiseaux qui se retrouvent, on peut les observer à plusieurs, en radeau parfois, sur l'eau, et qui vont plutôt aller plonger pour aller se nourrir sous l'eau. Donc, on ne retrouve pas... les limicoles, c'est les oiseaux qui vont s'alimenter, notamment dans la vase. Donc, c'est des petits oiseaux. Souvent, c'est les petits oiseaux que l'on voit courir avec l'eau qui monte et qui descend et qui... suivent un peu ce niveau de l'eau et qui viennent s'alimenter dans la vase. Donc le grèbe à cou noir, lui, il est plutôt en mer et il va aller se nourrir en plongeon pour aller chercher de la nourriture sous l'eau.
Comme un cormoran un peu, quoi.
Un peu comme un cormoran.
C'est pas un échassier, en fait. C'est...
Non.
Voilà.
Non.
Alors que l'huîtrier, puisqu'on parlait des huîtres, c'est un...
Alors l'huîtrier petite, justement, c'est un limicole qui va être présent toute l'année en Rade de Brest, et notamment qui niche sur les sites militaires, sur les sites de Trébéron-les-Morts, où on travaille avec la marine et la mairie de Crozon pour faire des suivis, pour essayer de savoir les oiseaux qui nichent sur ces zones-là.
Donc, et pourquoi il aime bien les sites militaires?
C'est des zones où il est tranquille, où il a la possibilité aussi de nicher sur le bord de mer où il ne va pas être dérangé dans sa nidification sur ces zones-là. Donc on a les huîtriers pies qui nichent là-bas. On a les trois espèces de goélands, le goéland argenté, le goéland marin et le goéland brun qui vont nicher sur ces zones. Et les cormorans aussi, cormorans IP qui va se retrouver sur ces sites-là. Donc c'est des sites qui sont préservés et où les oiseaux ne sont pas dérangés pendant leur nidification.
Et l'huîtrier pie. Alors lui, je l'ai pris sur un autre site qui s'appelle Braise Oiseau. Et c'est Joseph Bernicot qui... Tiens, ce site, c'est le chant de l'huîtrier pie. Justement, puisqu'on était dans les oiseaux, ça va nous permettre d'aborder la question des bonnes pratiques, n'est-ce pas? Puisque le petit guide marin de la Rade de Brest du parc d'Armorique, il est aussi là pour rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il vaut mieux faire et pas faire pour préserver tous ces milieux, ces espèces. Pour les oiseaux, justement, comment est-ce qu'on peut observer les oiseaux hivernants sans les déranger, Anna Capieto?
Alors sur les oiseaux hivernants, souvent le dérangement, c'est quand il y a des chiens qui vont courir après les oiseaux sur les bords de mer. Donc ça, il faut vraiment éviter de les déranger quand ils sont en train de s'alimenter. Dès qu'ils s'envolent, en fait, c'est une perte d'énergie assez importante. Quand ils sont en mer, c'est d'éviter d'aller vers les radeaux. Donc c'est quand il y a plein d'oiseaux qui sont regroupés ensemble en mer, parce qu'ils sont en train de se reposer. De la même façon, on ne va pas s'approcher et les déranger pour qu'ils s'envolent. C'est un peu les mêmes réactions à tenir face aux mammifères marins que l'on peut observer en mer, c'est-à-dire qu'on garde une distance, on peut les observer à distance, mais dès qu'on voit qu'ils ont des réactions un peu d'étonnement, d'inquiétude, eh bien on s'éloigne.
Parce qu'on voit des phoques par exemple
On peut voir des phoques
dans toute saison.
En toute saison, on a des phoques qui sont présents en Rade de Brest, qui sont notamment au niveau des structures conchylicoles du fond, en face de l'Andévennec. On a plusieurs phoques qui sont observé sur ce site-là. On a des dauphins aussi qui passent en rade. On a quelques dauphins qui passent dans la Rade de Brest qu'on peut avoir la chance d'observer depuis la terre, mais aussi en mer.
Et en matière de pêche à pied, alors il y en a beaucoup. Hein. Yves-Marie, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire parce que bon, on est tenté.
Bon, il y a des très bons conseils qui sont donnés dans le guide. Évidemment, la pêche à pied dans les zones de bloc nécessite un minimum de correction, je dirais, c'est-à-dire de remettre les blocs en place une fois qu'on les a retournés. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut aller encore plus loin. Il faut avoir un rapport délicat, presque affectueux avec le milieu. C'est-à-dire remettre un bloc à l'endroit, c'est oui, ok, c'est un minimum. Mais le remettre délicatement à sa bonne place, sans écraser tout ce qu'il y a en dessous, tout ça, c'est aussi des choses qu'il faut apprendre. Et il faut aller plus loin. Il faut être, je dirais, observateur. On ne soulève pas un bloc, c'est comme on ferait n'importe quoi. C'est un milieu, c'est des tas d'organismes qui y vivent.
Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, accroché sous le bloc?
On va trouver des éponges, on va trouver des... Alors, y a de nombreuses formes d'éponges en rade de Brest où on ne connaît pas ça, mais il y a effectivement des belles formes, des vertes, des roses, etc.
Toutes
des
petites
rouges.
Alors enfin, on les voit.
Toutes petites, elles sont assez plates, ouais. Ce n'est pas des éponges forcément très, très développées. On va trouver des ascidies, quelque chose d'assez incroyable. Des ascidies, ce sont des formes vivantes qui sont nos ancêtres, assez directes d'ailleurs, hein, mais qui sont à des états de petite taille collés sous les blocs, les ascidies.
Ça ressemble à quoi ? Enfin, c'est quoi ?
Bah, c'est-à-dire que ça, pourquoi je dis que c'est un peu nos ancêtres ? C'est qu'on sait que les larves de ces animaux... Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble souvent à des petites fleurs, c'est colonial, hein, collées, bleues souvent, pour certaines espèces, sous les blocs.
Mais c'est des animaux ?
Ce sont des animaux. Certaines sont plus grandes et plus développées, elles vivent seules, mais il y a différentes espèces. Ce qui est intéressant, quand je dis que c'est un peu nos ancêtres, c'est que c'est dans la lignée qui va mener aux humains, c'est-à-dire une lignée dans laquelle au moins la larve, le très jeune individu, a une forme de colonne vertébrale. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais ça, bon, je vais pas vous faire un cours de zoologie.
Ouais, c'est
ici.
La grande famille des cordées, mais, c'est ça,
voilà,
non ?
Voilà, ce sont les cordées, la corde, hein, qui va structurer ces animaux. Non, il y a énormément d'espèces. Mais je dirais, dans cette... on parlera des mouillages, on parle des mouillages aussi, toute cette question de comment on pose son ancre au fond de la rade de Brest.
Oui. Oui, parce qu'on parlait aussi, du merle, notamment.
Il faut de l'agilité, il faut observer. Je pense qu'un bateau qui va mouiller son ancre doit d'abord ne pas la jeter comme ça, quoi. Jette l'ancre, voilà, comme on entend. Mmh. Non, il faut prospecter le milieu, regarder, et chercher les endroits où il y a des taches de sable nues, sur lesquels il n'y a ni zostère, ni merle, etc. Et les fonds de la rade de Brest sont encore assez clairs pour, à plusieurs mètres, voir comment elles font. Et poser son ancre, c'est un acte qui a du sens, qu'on doit faire avec beaucoup d'observations. Donc c'est une façon de vivre avec le milieu. Je pense que le minimum, c'est effectivement remettre le bloc dans le bon sens. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça.
Et sinon, est-ce qu'on peut prendre une huître comme ça et la gober sur place quand
Alors,
on en trouve une
on peut toujours. C'est pas interdit, mais il faut quand même suivre les informations. Parce que le préfet nous dit régulièrement, et ça paraît dans la presse, attention, actuellement les coquillages sont toxiques, ou attention, une station d'épuration a laissé fuiter des bactéries. Donc méfiance. Donc... pour les huîtres, qui sont des filtreurs très puissants, donc qui concentrent beaucoup, je dirais, je fais confiance aux conchyliculteurs qui, eux, passent en bac d'épuration. Donc, ouais. Je me méfie des huîtres directement pêchées pour ma consommation personnelle.
Et les gens, qu'est-ce qu'ils pêchent, en fait, quand ils viennent faire de la pêche à pied ? Ils pêchent des pétoncles ?
Le pétoncle noir est très recherché par la pêche à pied. Donc, effectivement, ça va dépendre des années parce que son abondance est très, très variable. Mais c'est une des espèces emblématiques de la pêche à pied en rade de Brest. C'est assez original, d'ailleurs, parce que c'est pas fréquent en Bretagne. Hein. Mais quelque chose qui est très cherché. Bon, il y a la crevette, évidemment, et puis il y a toute une cohorte de gastéropodes, hein, du bigorneau. Et puis on a parlé des ormeaux aussi qui sont présents en rade, qui sont assez peu pêchés parce que la taille marchande est élevée, à 9 cm. Donc trouver des ormeaux de plus de 9 cm en rade de Brest, il faut s'accrocher. Mais voilà, donc oui, on a de quoi faire des belles pêches à pied. Soyons respectueux, prenons simplement ce dont on a besoin, ce qu'on est sûr de manger. On n'est pas là pour faire de l'accumulation et de la distribution. Hein.
Et puis sinon, il y a eu de la restauration des milieux. Enfin, il y a eu le programme Life Mara Anna Capieto. Alors, il est terminé. Qu'est-ce que ça voulait dire, Mara, Life Mara
Marine Habitat.
D'accord. Life, c'est l'instrument financier européen, en fait. C'est pas du tout de l'anglais. Et qu'est-ce qui a été fait dans ce programme ?
Alors, c'était un programme qui a duré sur 8 ans, de 2017 à 2025, et qui était destiné à restaurer, améliorer l'état de santé des habitats marins, des fonds marins, sur les sites Natura 2000. Alors là, c'est plein d'acronymes, mais donc c'était pour améliorer l'état de santé des fonds marins sur les sites qui sont protégés au niveau européen, un réseau de sites protégés au niveau européen. Et le parc d'Armory, qui était un des partenaires de ce projet, on était 14 partenaires, c'était un projet qui était piloté par l'Office français de la biodiversité. Et nous, au parc, en rade de Brest, on a mené de nombreuses actions pour évaluer l'état de santé de nos habitats marins. Notamment, on a développé un méthode de suivi des bancs de merle, dont on a parlé, pour savoir comment ils vont. On a travaillé aussi sur la dynamique du réseau, essayé d'améliorer les processus de concertation en rade de Brest. On a travaillé aussi sur l'évaluation des pressions et le retrait de pression, notamment le retrait de déchets en rade de Brest. Des travaux aussi sur des changements de mouillage pour éviter que les ancres n'abîment les fonds et les chênes, notamment les bancs de merle et les herbiers. Et on a travaillé aussi à des outils de médiation et de sensibilisation, comme notre petit guide marin qui nous a permis d'avoir des outils pour aller discuter avec le public et les acteurs du territoire.
Et depuis la lutte contre les invasives comme l'aspartine américaine. Bah, d'ailleurs, dans le fou, au fou, hein, bah, à quelques mètres de la radio, il y avait des gens qui, avec leurs bottes, mettaient des bâches, c'est ça, pour couvrir l'aspartine. Ça, c'était dans le programme Life Mara. Alors,
dans le cadre du programme Life Mara, il y a eu la création d'un guide d'aide justement à la lutte contre l'aspartine américaine qui a fait le bilan de plusieurs années de travaux pour savoir quelles étaient les méthodes qui fonctionnaient sur l'aspartine. Et ensuite, il y a eu des opérations, notamment ces bâches, hein, que l'on a pu voir sur plusieurs sites qui permettaient d'étouffer l'aspartine, de lui éviter d'avoir accès à la lumière et donc de faire qu'elle disparaisse sur certaines zones. Il y a eu des tranchées qui ont été creusées aussi pour éviter la propagation ou du retrait de petites touffes de spartine lorsqu'elle n'était encore pas beaucoup développée pour éviter qu'elle se développe. Ça a été fait avec d'autres outils financiers et notamment aussi par le biais du parc. On accompagne les communes dans des opérations de retrait pour éviter la propagation et la dispersion de cette espèce.
Et le programme Répare, qui lui est en cours pour restaurer les huîtres. Alors, on a une minute pour en parler.
Alors, le programme Répare, c'est la restauration de l'huître plate en rade de Bresse. C'est un projet sur lequel on travaille, le parc d'Armorique travaille avec le comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord et l'Ifremer. Et l'objectif, c'est de restaurer les récifs d'huître plate en rade de Brest. Yves-Marie en parlait, c'était l'huître native de la rade qui a presque totalement disparu, mais il reste, on sait qu'il y a des larves, on sait qu'il y a des huîtres plates qui sont présentes, on sait que c'est un terreau qui permettrait la recolonisation de cette huître plate. Donc l'idée, c'est d'installer des structures qui vont favoriser la capture des larves d'huître plate et permettre le développement des huîtres plates sur ces structures.
Ah oui, les larves ne viennent pas d'ailleurs, elles viennent du milieu.
Alors, il y a deux tests qui sont faits en parallèle. Il y a une partie, c'est les écomodules, ces structures qui permettent de capter les larves. Donc il y a une partie avec une capture de larves dans le milieu naturel. Et puis il y a une partie qui sont colonisées en écloserie. Le comité régional de la conchyliculture travaille sur ces colonisations. Et donc on teste avec des écomodules qui ont été colonisés en écloserie et d'autres qui sont directement dans le milieu. Et on voit qu'il y a déjà des larves qui se fixent et on voit déjà que ça commence à pousser. Donc là, on est sur la troisième année.
On fera une émission spéciale sur Répare. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Et en attendant, voilà, on se procure le petit guide marin de la rade de Brest. On peut réécouter cette émission sur le site de Transistor. Et on retrouve le parc d'Armorique le 10 mars. Merci. Au revoir.
Merci.